OK, c'est aujourd'hui que débute la convention du Parti démocrate aux États-Unis. Et puis, évidemment, on a un intérêt à suivre ça, notamment parce que Trump, les décisions de Trump nous ont beaucoup, beaucoup touchés. On l'a vu encore là, récemment avec l'imposition de tarifs sur notre aluminium. On est quand même le plus gros fournisseur d'aluminium des Américains. Ils s'en servent dans tout. Et puis, on est des bons partenaires, puis on fait un maudit beau produit. Et puis, il a décidé d'imposer une taxe là-dessus. Puis évidemment, c'est les consommateurs américains qui vont finir par payer, mais nous autres aussi, on paye à travers ça parce qu'on est moins concurrentiel par rapport à l'aluminium de la Chine, par exemple. Enfin, tout ça pour vous dire que les États-Unis, cette politique américaine, il faut la suivre. Et Valérie Beaudoin est chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, chroniqueur chez Cogeco, recherchiste aussi,
oui.
Parfois, dans
oui.
Cette émission, comme aujourd'hui. Bonjour Valérie.
Bonjour Bernard.
Alors, tu sais, la convention démocrate, là, c'est plusieurs jours, c'est des confettis, puis c'est un gros show. Évidemment, ça va finir, ça va culminer par le choix de M. Biden.
Oui.
Moi, je voulais que tu nous parles un petit peu de la controverse qui entoure cette convention démocrate, là, toute la controverse autour du vote par la poste. Pourquoi est-ce que c'est important, cette affaire-là?
Oui, ben la convention, les confettis cette année, ça va être rare, hein, parce que ça va être virtuel, donc ça risque d'être assez difficile. On va voir aussi comment ça va se faire à partir de ce soir.
Il n'y a pas de participants même à distance, là. Il n'y a pas de militants démocrates qui vont être sur place.
Il n'y a personne sur place, mis à part les hautes instances démocrates qui vont être à Milwaukee, au Wisconsin, où ça devait se tenir. On attendait 50 000 personnes, ça allait être super pour les commerçants de Milwaukee, mais finalement. COVID oblige, on fait ça à distance. Il y a même des discours qui sont déjà préenregistrés. Alors, il y en a qui vont se faire en direct, mais on a préenregistré tous les discours pour s'assurer que s'il y a un problème technique, que, par exemple, Bernie Sanders, son discours de ce soir, que ça soit possible de l'entendre. Barack Obama, la même chose. Alors, on préenregistre beaucoup de discours parce que ça va se faire sur le web. Ça va être assez difficile, peut-être, d'attirer l'attention des gens autant que par les années passées où on avait justement, comme tu l'as dit, ballons, confettis.
C'était une grosse fête. Oui, c'est ça.
Fait que là, la grande messe des démocrates qui se fait en ligne, ça risque d'être assez difficile. Donc, à tous les soirs, entre 21h et 23h, on va entendre les têtes d'affiche du Parti démocrate, puis on va tenter justement d'attirer les électeurs sur cette convention-là qui va vraiment pas être conventionnelle.
D'accord. Et cette histoire autour du vote postal, explique-nous pourquoi c'est important, puis pourquoi ça prend tant de place aux États-Unis présentement.
Écoute, c'est vraiment une question super complexe parce qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a la pandémie. On le sait que ça va être difficile d'aller voter sur place dans les bureaux de vote comme à l'habitude. Parce qu'il y a toujours des longues files d'attente, la distanciation sociale, ça va être difficile et les gens vont peut-être choisir de dire, écoutez, moi, je veux pas risquer ma santé à aller voter pour l'élection présidentielle et pour les autres élections.
Ça tient le 3 novembre, hein, faut
exactement,
le dire.
Ouais. Exactement. Alors, on est à moins de 3 mois de l'élection et là, on dirait qu'un peu, on se réveille que oui, il va falloir faire le vote par la poste. Pour beaucoup de gens, c'est ce qu'on va faire. Il y a plusieurs façons de voter par la poste aux États-Unis. On a le vote par anticipation, un peu comme on a déjà ici au Québec, au Canada. Mm-hmm. Il y a des États où on a besoin de fournir une excuse pour demander le bulletin de vote par anticipation et d'autres, ça peut être automatique. Mais ce qui est nouveau cette année, c'est qu'il y a de plus en plus d'États qui veulent avoir les bulletins de vote envoyé de façon universelle, qu'on appelle. Alors, ça veut dire que tous les électeurs inscrits pourraient recevoir un bulletin de vote automatiquement à la maison et par la suite, par le biais de la poste,
voter,
comme on préfère.
L'objectif étant de favoriser une participation électorale qui soit la plus grande possible, alors qu'aux États-Unis, souvent, ça vote même pas. C'est autour de 50%. 50% de participation, c'est une bonne élection, là.
Oui, exactement. Mais j'ai regardé le nombre d'électeurs aux États-Unis. Là, en 2016, c'était 250 millions. De personnes qui pouvaient voter. Alors, imaginez si 250 millions, et là, on parle en théorie, décidaient d'envoyer leur bulletin de vote par la poste. Ça serait inimaginable à compter, à gérer, surtout en sachant que le service postal aux États-Unis, il vit déjà des crises depuis plusieurs mois. Et pourquoi c'est aussi controversé actuellement, c'est que le président a dit la semaine dernière, dans une entrevue, que oui, il n'allait pas accepter d'avoir du financement supplémentaire pour favoriser ce vote par la poste, parce qu'il a dit, je veux justement pas favoriser ces bulletins de vote. Alors ça, c'est une des premières choses. Et aussi, il y a un électeur, un important donateur républicain qui a été placé à la tête du service postal. Alors, c'est une nomination extrêmement partisane et lui a décidé, on coupe dans le temps supplémentaire, des machines pour trier le courrier, là. Alors de l'équipement pour trier le courrier automatiquement, on en enlève des bureaux de poste. Alors, en ce moment, c'est extrêmement lent pour les Américains, imaginez, pour recevoir les chèques d'aide sociale ou autre. Et qu'est-ce que ça va être en novembre quand on va recevoir tous ces bulletins-là? C'est pour ça qu'il y a une crise en ce moment et que les démocrates disent « Écoutez, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Il faut voir venir l'élection et il faut que le président ne freine pas qu'on investisse dans le service postal. Il reste 2 mois et des poussières. »
Mais il n'y a pas intérêt à le faire. Il n'y a pas intérêt à le faire parce que j'imagine que le calcul qu'il fait, lui, c'est que moins ça vote, mieux c'est pour lui. Plus il a de chances d'être élu. Est-ce que je me trompe?
Oui, et dans des endroits où c'est extrêmement populeux, on y a souvent plus de cas de COVID, c'est souvent plus difficile et c'est des États, souvent, pas des États, mais des villes qui votent à majorité démocrate. Alors, il y a ce calcul-là qui peut être fait, c'est vrai.
Si les villes votent moins, il est favorisé. Et oui. C'est dans les villes qu'il y a le plus de COVID. Donc, c'est dans les villes qu'on peut penser qu'il y a un plus grand intérêt pour voter par la poste.
Exactement.
Si c'est difficile de le faire, c'est des votes démocrates qui risquent d'être perdus.
Exactement. C'est ce qu'on croit. Mais il y aura aussi des votes républicains parce que c'est pas prouvé nulle part. Le président dit que c'est les démocrates qui veulent se favoriser, mais c'est pas prouvé que de façon générale, les républicains vont être pénalisés. Il y a aussi la question de fraude électorale. Le président a souvent associé ce vote-là par la poste en disant qu'il va avoir tellement de fraude que l'élection va pas être légitime, que ça va être extrêmement difficile de décider qui finalement a été choisi, désigné comme prochain président des États-Unis.
Alors, est-ce qu'il prépare, est-ce qu'il met la table pour être en mesure de déclarer illégitime le résultat électoral du 3 novembre prochain pour dire « je m'accroche à la présidence, ce résultat est frauduleux » et donc, mettons que les résultats officiels le donnent perdant, ben il se serait, comment dire, placé dans une situation où il pourrait déclarer que le résultat officiel n'est pas un résultat valide et donc qu'il est légitimé de rester à la présidence, de rester à la Maison-Blanche?
Imaginons un instant que l'élection est extrêmement serrée. Et là, faut compter les votes. Il y a des bulletins de vote qui sont perdus, il y en a qui sont pas comptabilisés.
Parce qu'ils sont encore dans le poste, ben oui.
Ben oui, parce que je l'ai vu dans les primaires en Californie, par exemple. C'est un peu le bordel parce qu'on envoyait, on pouvait jusqu'à minuit le soir de l'élection poster notre bulletin de vote. Donc, on peut pas avoir un résultat le soir même, hein. Les résultats, ça se fait beaucoup plus tard. Est-ce qu'on va avoir le temps de contester ces résultats-là? Est-ce que ça va se rendre devant les tribunaux? On peut imaginer comment ça va être difficile. On n'aura peut-être pas de résultat clair le 3 novembre. Ça va s'étirer. Et faut pas oublier que le nouveau président, ou le président actuel qui a un deuxième mandat, entre en poste obligatoirement à la mi-janvier. On peut pas déplacer ça, c'est dans la Constitution américaine. Qu'est-ce qui va se passer entre le 3 novembre et le 20 janvier? Ça reste à voir, mais on peut s'assurer qu'il va y avoir des contestations, ça c'est certain.
Bon, là j'amène dans la discussion Luc Lavoie. Rebonjour Luc.
Rebonjour Bernard.
Qui suit évidemment la politique américaine passionnément, comme on la suit tous. On l'a toujours beaucoup suivi, mais là évidemment on a un intérêt encore plus grand à surveiller ça. Qu'est-ce que tu souhaites ajouter aux commentaires de Valérie?
Que les démocrates sont loin d'avoir gagné. C'est ça que je veux ajouter.
Même si Biden est donné gagnant dans les sondages actuellement, par quoi? Par 10 points ou presque, non?
Par 10-11 points. À la même date, il y a 4 ans, Hillary Clinton était 8-9 points en avant. Okay? Ça, faut se mettre ça dans la tête. Deuxièmement, Biden est un très mauvais candidat. Très mauvais candidat parce qu'il n'est plus l'ombre de lui-même. Je veux pas aller dans les détails de tout ça, là, mais c'est un gars qui fait campagne dans son sous-sol de maison parce que c'est là qu'il est le moins nuisible. Il donne jamais d'entrevue parce qu'à chaque fois qu'il en donne une, il fait une gaffe toujours plus loufoque les unes que les autres.
Mais on veut quand même, Luc. Je veux dire, là, moi, je m'en suis jamais caché, puis je sais que à partir du moment où je dis ça, je vais recevoir un paquet de textos, là.
On veut se débarrasser de Trump.
Ça prend Biden.
Ça prend Biden, mais le problème, c'est que Biden est loin d'avoir gagné encore. Et quand il a choisi Kamala Harris comme co-listière,
oui.
J'ai dit, c'est vrai qu'elle est fantastique. J'ai regardé les débats démocrates. Elle est vraie. C'était une des meilleures. C'était peut-être la meilleure qui était là. Maintenant, d'habitude, tu te sers de ton co-listier, comme jadis Kennedy avec Lyndon B. Johnson, puis je pourrais continuer comme ça, là. D'habitude, tu choisis quelqu'un qui va t'amener des votes dans une région qui pourrait t'aider à gagner la présidence. Kamala Harris, elle vient de la Californie. La Californie est massivement pro-démocrate.
Bien sûr.
Et là, si, grâce à Kamala Harris, il y a 2 millions de votes de plus en Californie, qui est quand même un État qui est plus populeux que le Canada en entier, ça va changer quoi dans le résultat? Je ne comprends pas où ils s'en vont. Je souhaite...
Mais je pense qu'ils veulent aller chercher le vote afro-américain pour que les afro-américains aient voté.
Ils l'avaient.
Oui, mais ils n'ont pas voté la dernière fois.
Ah, ils ont voté un peu quand même.
Pas autant qu'ils auraient voté, mettons, pour Bill Clinton.
Ils ont voté plus pour Bill Clinton. Non. Okay. Ben, ils ont voté plus pour Barack Obama, c'est sûr.
Bon.
Mais le problème de Joe Biden, il ne se situe pas, excuse-moi, là, chez les Noirs. Il vote, quand il vote, massivement démocrate. Son problème, il se situe dans les chez les banlieusards, hein, chez les gens middle class, chez les gens qui se sont révoltés il y a 4 ans contre un
mais
système.
Mais t'aurais voulu qu'ils prennent un colistier ou une colistière blanche ou blanc?
Non, pas nécessairement.
Moi, je pense que Harris était le meilleur choix, Luc.
Ben, à bien des égards, c'est le meilleur choix, mais je te le dis, dans la stratégie démocrate, je ne comprends pas ce choix-là. Normalement, tu aurais essayé de combler tes lacunes.
Tes faiblesses, OK. Valérie.
Mais comble pas avec ça.
Valérie, 30 secondes pour conclure.
Oui, ben écoutez, Kamala Harris, justement, ça va être à surveiller mercredi à la convention parce que c'est là qu'on va l'entendre, qu'il va y avoir un auditoire immense avec cette convention-là.
Tu penses que les Américains vont être au rendez-vous? Il va avoir un bon auditoire?
Oui, parce que les grandes chaînes vont diffuser les conventions. Okay. Les CNN et les Fox de ce monde vont diffuser les conventions.
Oui. Il va être en direct, il sera pas enregistré, celui-là?
Il y a toujours une version enregistrée puis une version en direct. Comme ça, c'est un pépin technique. On a, comme on dit en bon français, un backup. On est capable de diffuser. Parce qu'imaginez, en pleine convention, avec des millions d'Américains qui regardent, s'il y a un problème technique et le Zoom ou le FaceTime ou ce que vous voulez fonctionne pas.
Pis ces discours-là, par moment, peuvent faire une différence. Luc, peut-être que Kamala Harris va te rassurer. C'est mercredi, tu dis, Valérie?
Oui, mercredi, exactement.
Je ne pense pas qu'elle est pas bonne. Je pense qu'elle est la meilleure. Je te l'ai dit.
Oui, je sais.
Mais le problème, c'est que c'est pas elle qui est la candidate. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on s'amuse aux États-Unis à dire, regarde, elle va mettre Biden dans sa petite poche, puis c'est elle qui va être la vraie présidente, parce qu'il est tellement plus là, Biden, qu'on l'imagine mal.
Je te trouve dur avec Biden, mais on va en reparler, Luc. Mais je te trouve dur.
On va en reparler. Je suis pas dur, je suis réaliste.
Ouais, je te trouve dur quand même.
En tout cas, je veux qu'on se débarrasse de Trump, puis je trouve que c'est mal parti.
OK. Luc, on se reparle demain.
À demain.
C'est toujours un plaisir, mon gars. Et Valérie Beaudoin, ben, tu continues à suivre ça pour nous.
Oui, avec plaisir toute la semaine. Là, il va y avoir des discours à tous les soirs.
Très bien. Spécialiste de la question américaine, Valérie, à la prochaine.
Merci.
Dans un instant, une belle histoire. On termine l'émission avec ça. Une belle histoire. Un jeune de 24 ans qui a décidé de reprendre la ferme de ses ancêtres, mais d'une manière moderne, on va dire. Dans un instant, vous allez faire la connaissance d'Olivier.